Et on retrouve en cette première journée de programmation régulière pour 2023, Lynn Kearney, comme on le fait chaque lundi pour parler finances. Lynn, bonjour et bonne année.
Bonjour et bonne année, Sébastien.
Et on va le dire d'entrée de jeu, début d'année vient avec une presque extinction de voix, mais tu es quand même assez en forme pour nous faire la chronique, là.
Oui, la forme revient, la voix prend un peu de temps, mais la forme est presque tout de retour. Là.
Bon, puis aujourd'hui, on va parler en ce début d'année justement de ce qui change au niveau des finances en 2023, peut-être des notes à prendre là, pour l'année qui s'amorce.
Oui, ben des petits changements, il y a toujours des changements à certains égards, le 1er janvier de chaque année. Mm-hmm. Des belles surprises, des moins belles surprises. L'année passée, on a fait une chronique sur le sujet aussi. Je pense qu'il y avait plus de belles surprises l'année passée, malheureusement. J'ai trouvé ça plate un peu en préparant ma chronique. Mais bon.
Mais faut quand même les connaître. Belles ou pas, faut le savoir.
Ben ouais, un petit clin d'œil, parce que j'ai réécouté la chronique de l'année passée pour pas en oublier. On s'était dit en début de chronique qu'il faisait moins 39 l'année passée. C'est quelque chose ça fait qu'on commence un peu mieux 2023.
Oui, c'est un peu moins raide.
Première chose, la Régie des rentes du Québec. La Régie des rentes, Sébastien, c'est évidemment quand on est rentier, retraité, on reçoit souvent nos rentes de la Régie des rentes. Mais aussi, au niveau provincial, les allocations familles viennent et sont gérées par la Régie des rentes du Québec. Donc, dans le contexte inflationniste que l'on connaît, les rentes vont être indexées de 6,5.
Okay.
Ça fait... Parce que, en fait, la loi prévoit que les rentes sont indexées en fonction de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Mm-hmm. Donc, bonne nouvelle pour les gens qui reçoivent... au niveau familial, là, ceux qui en reçoivent, la majorité, vous recevez ça aux 3 mois. Vous allez savoir de quoi je parle. C'est 1er janvier, 1er avril, à tous les trimestres. Ben, une famille qui recevait 500 $ par 3 mois va recevoir environ 533 $ par 3 mois.
Okay.
Donc, ça fait quelqu'un qui recevait une rente de retraite de 1000 $ par mois va avoir 1065. Donc, c'est quand même au niveau de la Régie des rentes, c'est une indexation, évidemment, c'est l'IPC. Fait que techniquement, on n'est pas nécessairement plus riche. Parce que ça veut dire que les biens de consommation ont augmenté de ça.
Mais au moins, on fait pas le saut si on c'est pas une erreur là, si on voit que le montant est différent.
C'est
là.
Ça. De toute façon, en général, quand on a plus, on n'a pas tendance à téléphoner pour
non.
Dire que on attend de voir. Par contre, la Régie des rentes du Québec, tu sais que ça se finance par toi, moi, et tout le monde qui est sur le marché du travail. Donc, le taux de cotisation à la Régie des rentes, nous, on paie une cotisation à la RRQ qui est prélevée à la source sur nos salaires.
Ouais.
Les employeurs en paient une partie aussi. Ça augmente d'un demi-point de pourcentage. Donc, on va... c'est 50-50 employés-employeurs, là, pour ceux qui sont employés. Mais avant, vous payez chaque employé 6,15% de votre salaire à la régie. Là, vous allez payer 6,4%. C'est un demi-pourcent d'augmentation.
Okay.
Donc, si vous êtes travailleur autonome à votre propre compte, vous payez 12,8% au lieu de 12,3% parce que vous payez la partie employé-employeur. J'ai un petit clin d'œil d'ailleurs aux travailleurs autonomes qui, à chaque saison d'impôt, disent « Je paye donc bien de l'impôt. » Oui, mais au provincial, vous payez aussi votre retraite quand vous payez votre impôt provincial des travailleurs autonomes.
Faut quand même le noter, c'est ça.
Oui,
faut ça le rappeler.
Faut bien le noter parce que les gens font toujours le saut. Les travailleurs autonomes, malheureusement, on ne s'en sort pas. Mais c'est la façon aussi de s'acheter de retraite. Hein. L'assurance-emploi qui est prélevée sur nos payes monte un peu aussi. Je vais vous épargner les pourcentages. Là, c'est pas des gros montants, mais sachez que votre paye nette de votre dernière paye de décembre puis votre paye nette de votre première paye de janvier
sont pas pareils.
Votre salaire n'a pas bougé, ne sera pas nécessairement identique.
Mm-hmm.
Elle ne sera pas nécessairement plus petite parce que les taux de cotisation ont augmenté, parce que les taux d'impôt aussi ont changé.
Okay.
Donc, le gouvernement vient dire, OK, le premier... 15 000 $ au fédéral, exemple, tu ne paieras pas d'impôt dessus. Mais l'année passée, c'était le premier 14 564 $ exemple.
Mm-hmm.
Fait que ça aussi, c'est indexé. Fait que vous allez sûrement remarquer une différence dans votre première paye nette de janvier, de 2023.
Mais pas à tout casser, là, dans le fond. C'est juste qu'on n'aura pas le même montant. Là, ouais.
Il y a des hauts et des bas, mais qui au net, là, vont se falloir.
OK.
Les taxes municipales. Ça varie énormément selon le contexte, Sébastien. Il n'y a pas un contexte pareil. D'ailleurs, au mois de février, les gens vont recevoir leur compte de taxes municipales je vais en profiter pour faire une chronique pour que les gens comprennent leur compte de taxe municipale et comprennent c'est quoi les défis de municipalité derrière un compte de taxe municipale.
J'aime beaucoup
parce
ça.
Parce que, ouais, j'ai pas abordé ça encore, mais j'ai travaillé avec des élus beaucoup, puis j'ai jamais vu un élu bien heureux d'envoyer une augmentation de taxes à ses citoyens. Fait qu'on va
mais c'est parce qu'il reçoit lui aussi, fait que c'est sûr qu'il n'est pas
si heureux. Il fait pas de gaieté de cœur. On va essayer de démystifier ça un petit peu, là, comment ça se construit un compte de taxes municipales. Puis au moins que les gens comprennent. On n'est pas obligé d'être tout le temps content de ce qu'on a, mais il faut comprendre un minimum là, quand même pour pouvoir en juger.
Oui, c'est ça. Ça nous aide. Ouais, ça fait moins mal au cœur des fois quand on comprend parfaitement.
Oui, c'est ça. Tout ce que je voulais dire pour les taxes municipales, c'est que l'Union des municipalités du Québec a quand même émis un communiqué assez important cet automne. Moi, je ne sais pas si ça s'est fait avant, mais j'avais jamais vu ça. Probablement pour soutenir ses membres, parce que les municipalités font face à l'inflation aussi. Puis, l'UMQ a affirmé quelque chose comme, je vais caricaturer, mais que c'était illusoire d'offrir à ses citoyens une augmentation de taxes en dessous de 6%. C'était un cadeau que la municipalité faisait à ses citoyens. Moi qui dis ça, là, arrachez-moi pas la tête, là.
Non.
C'est l'Union des municipalités du Québec qui est sortie publiquement pour dire ça. Parce que les organismes publics là, qui nous gouvernent de proche, là, les municipalités de la MRC, elles font face, eux autres aussi, là, au coût de l'essence, au coût des salaires à compétition. Bon, tu sais, tout ça, là, c'est une réalité qui est bien belle et bien présente dans les budgets municipaux, qui revient dans nos comptes de taxes. Fait qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu de la mécanique d'un compte de taxes.
Excellent. On va attendre de les recevoir, puis après ça, on pourra le regarder en même temps que la chronique.
Que les gens en aient quelques uns entre les mains. Ils laissent sous la main s'ils veulent regarder ce que je dirais. Services publics divers, donc les tarifs gouvernementaux, là, permis, immatriculation, la CEPAC, les services de garde, les frais de scolarité, les frais en CHSLD. Mm-hmm. La loi plafonne à 3... une loi qui a été décrétée plafonnant à 3% l'augmentation de ces tarifs gouvernementaux là, par année de 2023 à 2026.
Okay.
Donc pour contrer là, la trop grande inflation puis que tous les ministères aient trop de place à augmenter, donc tout ça est plafonné à 3%. Hydro-Québec, même chose, 3% résidentiel. Les commerçants puis les petites entreprises, avril 2023, 6,4%. Ça va faire mal à certains. Puis, il y a d'ailleurs une saga là-dessus, là, parce que les petites entreprises, qui sont pas des entreprises industrielles, par exemple, ont beaucoup négocié pour être dans la loi, dans le projet de loi qui disait qu'il limitait à 3% les augmentations. Mm-hmm. Mais bon, ça n'a pas fonctionné à ce jour-là.
Bon, ben voilà. Puis c'est parce que veux pas, à un moment donné, ça va refléter sur le coût de ce qu'on achète.
Ben,
c'est ça.
C'est une roue qui tourne, hein? Une nouveauté en 2023, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vais juste vous dire le nom. As-tu entendu parler, Sébastien? Du CELIAP. Ça te dit quelque chose?
C'est pour l'achat d'une première maison, c'est ça?
Oui, c'est un CELI puis un REER mélangé comme.
OK.
Ça s'appelle compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. On va en reparler plus tard ce printemps. Puis, on n'est pas au mois de décembre, on est au mois de janvier, mais vous êtes en train de recevoir vos relevés de décembre.
Oui.
Gardez-les précieusement, prenez le temps de réviser vos choses. C'est le temps, là, souvent, les relevés de décembre. On voit dessus des cumuls annuels ou souvent vos relevés de décembre de finances, là, de banque, de carte de crédit, d'assurance, souvent contiennent des informations précieuses qui sont pas à tous les mois. Donc, classez ça et gardez-les bien.
Ça va nous aider à faire notre budget.
Oui, puis prenez le temps de les regarder. Je dis souvent, le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis convaincue que si on prend le temps d'analyser nos affaires plus souvent, on va avoir des opportunités d'économie qu'on voit pas.
Bon, ben on va commencer l'année du bon pied, je pense, avec tout ça.
Je m'excuse pour la voix, j'espère que vous m'avez quand même bien compris, puis je souhaite une belle année à tous les auditeurs, Sébastien.
Merci beaucoup, Lynn, puis rendez-vous lundi prochain.
Merci, bye-bye.